Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 111 de S'ouvrir à l'amour, live coaching sur la communication. Alors, je pense que cet épisode est pour vous tous, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, la communication, c'est le nerf de la guerre en relation. Et pour ce live coaching, Pauline a accepté d'être coachée en live. Et elle va te parler des difficultés qu'elle a en termes de communication, que ce soit dans son travail, mais aussi dans ses relations, où elle a souvent le sentiment de tomber dans le reproche et qu'elle se sent surtout incomprise quand elle fait ses demandes, soit à son partenaire, soit à d'autres personnes. Dans le live coaching, tu vas notamment découvrir quelle est la blessure sous-jacente de Pauline qui fait qu'elle a du mal à se sentir légitime dans ce qu'elle demande. Je te partage deux outils qui vont l'aider à diminuer l'anxiété qu'elle ressent avant de communiquer. Tu vas voir que dans le coaching, on va parler de l'importance d'être au clair sur ce que tu veux demander et que c'est pas toujours si évident. Tu vas voir la pensée qui la bloquait vraiment pour vraiment demander ce qu'elle voulait demander. Quel est le juste milieu entre les sous-entendus et j'essaye d'argumenter, de convaincre l'autre? Comment on peut faire quand on a envie que ça vienne naturellement de l'autre? Ça, c'est une question que vous me posez des milliers de fois. Et comment tu peux t'entraîner pour trouver la bonne formulation? La communication, c'est un des modules que je préfère, en fait, dans S'ouvrir à l'amour. Parce que chaque coaché voit vraiment des changements concrets dans sa manière de communiquer, dans son interaction avec les autres. Et aussi parce que dans S'ouvrir à l'amour, tu vas énormément passer à la pratique. Donc si toi aussi tu as envie de transformer ta communication, ta vie amoureuse, je ne peux que t'inviter à rejoindre le programme S'ouvrir à l'amour, qui commence tout bientôt, fin avril. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode de podcast. Bonne écoute. Alors, Pauline, merci beaucoup pour avoir t'être proposé pour ce live coaching sur la communication, parce que je pense qu'en effet, ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes à avancer sur leur cheminement en relation. Est-ce que tu veux peut-être expliquer quelles sont les difficultés que tu rencontres dans le cadre de la communication dans tes relations?
Déjà, merci à toi de m'avoir accepté. Et puis, moi, c'est tout ce qui est communication, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales, professionnelles. J'ai beaucoup de mal à me faire comprendre quand je pose parfois mes limites ou que j'exprime mes besoins. J'ai l'impression que les personnes comprennent pas ce que je dis et ou le prennent mal, alors que j'essaie juste d'exprimer ce que moi je ressens ou mes peurs ou ce que j'aimerais, mais ça, enfin, c'est toujours mal interprété, enfin très souvent mal interprété.
Et est-ce qu'il y a un sujet récurrent ou est-ce que c'est pour différentes limites, différents besoins? Est-ce que tu vois là peut-être une répétition sur quelles limites particulièrement tu as l'impression que les gens comprennent pas ou est-ce que c'est général?
C'est plutôt assez général. En fait, dans mon travail, je suis directrice, donc j'ai des animateurs qui sont en dessous de moi et à qui je dois donner des consignes, etc. Et je sais que j'ai eu beaucoup de mal à me faire comprendre, à ce qu'ils acceptent en fait que moi je dise quelque chose, alors que pour moi ça me paraît tout à fait naturel de entre guillemets la hiérarchie me dit quelque chose. Si je suis pas d'accord, je vais expliquer le comment du pourquoi, mais je vais pas ne pas le faire juste pour ne pas le faire en fait. Enfin, Et pareil, dans ma vie amoureuse, je sais que souvent, j'exprimais des choses, j'essayais d'expliquer quelque chose. Et en fait, on interprétait ça comme si j'étais la maman qui est en train de donner des ordres ou le général à l'armée qui donne ses ordres. Alors qu'en fait, non, c'est pas ce que je veux faire ressentir, mais c'est ce qui ressort à chaque fois de mes discours.
Est-ce que tu as un exemple, 2-3 exemples concrets par rapport aux relations amoureuses ?
Du coup, avec mon ex, j'avais l'impression de le, même moi finalement, j'avais l'impression de le commander quand je lui disais, ouais, j'ai besoin que tu sois présent pour moi. Voilà, je ressentais le fait qu'il fuyait un peu et que moi, c'était un besoin. Et en fait, lui, c'était, il a pas le droit de sortir. Enfin, lui, il l'interprétait vraiment comme ça. Il a pas le droit de sortir. Il peut pas faire ce qu'il veut. Il doit rester à la maison avec moi parce que je l'ai demandé. Mais du coup, à la finalité, même ça me satisfaisait pas finalement qu'il reste aussi à la maison parce que je l'avais exprimé 10 fois. Enfin, et du coup, c'était finalement rentré même dans du conflit pour avoir ce que je voulais. Alors que moi, je trouvais que c'était à la base ma demande restait légitime d'après moi, en fait.
Justement, en parlant de légitimité, est-ce que tu sens que c'est quelque chose en lien avec ta place ?
Oui, moi je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en moi. Du coup, je fais toujours tout pour que tout le monde m'aime, mais du coup, je m'oublie. Et quand j'essaye enfin de m'écouter un petit peu ou d'écouter, au moins d'essayer de répondre à mes peurs, comme celle de l'abandon, donc le fait que je veux que j'ai besoin qu'il reste avec moi par moment, etc. Et ben, du coup, je pense que je l'exprime mal parce que ça me touche tellement qu'en fait, je sais moi-même pas faire attention à moi, finalement, parce que je fais toujours attention aux autres et pas à moi, qu'au final, je demande des choses aux gens alors que moi-même, je sais pas le faire.
Oui. Quand tu m'as dit le mot légitime, ce qui est venu à l'oreille, c'est si moi-même, je me sens pas légitime de demander des choses, de prendre ma place, forcément, quel va être le reflet vis-à-vis des autres personnes, c'est que on va te faire sentir que tu n'es pas légitime d'eux.
C'est vrai. Mais du coup, c'est là la difficulté, c'est de savoir comment se sentir légitime quand on demande quelque chose.
Oui. Et là, c'est ce qu'on va essayer de chercher. C'est, pour moi, il y a toujours 2 aspects, en fait, dans ce qu'on vit, plus particulièrement dans les relations amoureuses. C'est la partie de pourquoi c'est difficile. Pourquoi c'est difficile pour toi de te sentir légitime dans ce cadre-là. Et il y a souvent une raison logique. On n'agit pas comme on agit juste comme ça parce que on se dit, tiens, j'ai oublié mes besoins du jour au lendemain. Il y a souvent une logique et ça aide en fait à comprendre déjà la difficulté qu'on a, d'où est-ce que ça vient, pourquoi c'est peut-être plus difficile pour nous de faire ça que autre chose. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ma première question par rapport à ton passé, c'est au niveau de ta naissance. Est-ce que tu étais désirée ? Est-ce que tu étais voulue ou...
Oui, j'étais désirée par mes 2 parents. Après, ma naissance en soi, à ma connaissance, c'est plutôt bien passé. Mais je pense que c'est venu plus tard. Du coup, parce que moi, j'ai ressenti une grosse jalousie envers ma sœur, ma petite sœur, du coup, quand elle est née, et qui a perduré jusqu'à plus de 20 ans passés. Du coup, je sais pas si ça peut... Enfin, ça doit venir du passé, hein, mais ma naissance, à ma connaissance, tout s'était bien passé, ça allait très bien, donc...
Est-ce que c'est arrivé dans un moment de vie où tes parents avaient la capacité, où tu avais l'impression qu'ils étaient dans une phase un peu chargée en termes, je sais pas, professionnels ou autres, ou ça non plus ?
Non plus, du coup, ça faisait 1 an et demi qu'ils étaient mariés, donc ils cherchaient à avoir un enfant, forcément, surtout à l'époque, c'était vraiment très carré. Ensuite, mon père commençait une nouvelle formation professionnellement, mais ça avait pas l'air de... Enfin, ma mère, après, a arrêté de travailler, a arrêté le travail qu'elle faisait quand elle est tombée enceinte de moi, pour devenir nourrice à la maison, pour pouvoir s'occuper de moi et de ses autres enfants par la suite. Donc, ouais, la situation, on va dire, à ma naissance, pour moi, je pense que c'était la situation idéale de...
Oui, alors en effet, là, de ce que tu me racontes, je vois pas spécialement quelque chose en lien avec la naissance. Ta sœur, elle est arrivée combien de temps après ta naissance et pourquoi tu avais ce sentiment de jalousie ?
Alors du coup, j'avais quasiment 2 ans quand ma sœur est née. Alors, je ne sais pas le comment du pourquoi, parce que bon, j'étais encore très petite, mais je sais que, par exemple, je suis devenue propre peu de temps après la naissance de ma sœur, parce que j'ai réalisé que quand je disais pipi, ma mère posait ma sœur et s'occupait de moi, du coup. Donc je sais que j'ai beaucoup pratiqué cette technique-là. Et après, je sais pas, est-ce que j'étais pas préparée assez, est-ce qu'on n'avait pas assez parlé avec moi justement pour m'expliquer la venue d'un bébé, ce que ça voulait dire, ce que moi j'allais garder une place, mais que ma sœur allait aussi en prendre une et que bah elle aura besoin de plus de temps que moi. Enfin, du coup, je sais pas si l'explication avait été faite ou pas et comment. Mais ouais, je sais que ben c'était ma sœur, donc personne n'avait le droit d'y toucher. Donc les enfants que mes parents, que ma maman gardait, pareil, ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Il y avait que moi parce que c'était ma sœur. Mais par contre, tout ce qu'elle faisait, enfin, je lui en voulais. Je lui en voulais de beaucoup de choses. Pour moi, ma sœur, c'est Miss Parfaite. Et puis ben, du coup, ça a duré jusqu'à très longtemps en fait. Cette notion-là.
Et est-ce que tu avais l'impression qu'elle avait plus d'attention que toi, ou c'était quoi ici ta perception?
Oui, tout à fait. Pour moi, on faisait plus attention à elle, on la mettait plus elle en valeur, où qu'on aille, que ce soit dans le cercle familial, amical, etc. C'était ma sœur qui était mise en avant.
Et comment on réagissait quand toi tu voulais quelque chose? Tu avais un besoin, tu essayais de l'exprimer?
Ben, moi, on me disait que c'était pas encore le moment. Alors, je vais parler avec les cadeaux, parce que bah en tant qu'enfant c'est beaucoup très significatif. Par exemple, quand j'ai demandé un grand lit, on m'a dit non. Et finalement, 2 ans après, moi et ma sœur, on a eu un grand lit. Mm-hmm. En même temps, enfin des choses comme ça en fait. C'était je demandais quelque chose, c'était non, et finalement quand ma sœur elle le demandait, c'était un oui pour nous deux.
Est-ce que tu vois le parallèle avec ce que tu m'as décrit précédemment par rapport à la communication?
Pas encore tout à fait.
Là, tu décris en fait que quand tu exprimais un besoin, une envie, et c'est finalement ce qu'on demande principalement en relation, j'ai besoin de passer du temps avec toi, etc. Ben, on remet en cause en fait ton besoin. C'est comme si ton besoin maintenant est pas légitime, c'est pas encore le moment où il faut attendre ou je sais pas quoi. Et finalement, c'est presque ce même schéma que quand tu dis quelque chose, tu demandes quelque chose, on nie ce que tu demandes, on donne pas de légitimité à ce que tu demandes et tu te retrouves dans ce sentiment d'impuissance de pas arriver à prendre la place que tu as envie de prendre.
Ouais, je comprends.
Ça, c'est extrêmement important parce que à chaque fois que tu vas avoir envie de demander quelque chose, déjà, rien que le fait de comprendre que une partie vient de ça, ça va t'aider, en fait, à réaliser qu'il n'y a pas que le besoin que tu es en train d'exprimer, il y a ce processus de guérison de cette blessure de du passé qui joue encore ensemble. Dans mon programme, en fait, ce schéma de pas prendre sa place, ça peut se créer à la naissance. C'est pour ça que je t'ai posé la question de la naissance. Mais ça peut aussi se créer dans la fratrie. Et encore une fois, c'est pas forcément l'intention des parents, mais c'est comment un enfant l'a perçu. Et c'est normal, 2 ans, c'est pas un grand écart, donc t'es encore assez demandeur quand t'as 2 ans de tes parents, et ça peut être vraiment vécu comme une autre personne arrive, puis moi j'ai pas ma place, j'ai plus autant d'attention que ce que j'aimerais. Et c'est pour ça en fait que dans S'ouvrir à l'amour, on travaille d'abord ces choses-là, parce que ça nous prend aux tripes en fait.
Exactement. C'est exactement ça.
Comment tu le vis? Alors moi là, on va parler plus du corps, comme tu sais, pour moi c'est le corps qui parle plus, et les schémas, et particulièrement le schéma de la place, ça c'est beaucoup ancré dans le corps. Comment toi tu le vis au niveau émotionnel dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe quand tu veux demander? Donc ça peut se passer un peu avant de faire la demande, ou pendant, ou après. Qu'est-ce qui se passe en toi?
C'est une vague d'émotions. Quand j'ai conscience que je vais demander quelque chose qui peut être un petit peu compliqué, on va dire, qui va demander une implication de quelqu'un, etc., du temps de la personne, etc., moi, j'appréhende énormément. c'est limite une crise d'angoisse. Ça veut dire j'ai mal au ventre, j'ai du mal à respirer. Enfin, je me torture l'esprit pour essayer de trouver les bonnes formulations de phrases pour pas en demander trop, mais que ma demande soit comprise. Et ouais, vraiment, je me torture la tête pour ça et ça me fait ouais mal au ventre. Mal à la gorge, enfin voilà, ça, je sens que ouais, ça veut pas sortir, donc ça m'empêche de dormir par moment parce que je tourne tout ça dans tous les sens pour essayer de trouver la meilleure des façons de dire la chose,
Ouais. Et ça, typiquement, c'est cette surréaction, en fait. Tu sais qu'il va pas y avoir mort d'homme si tu fais une demande et que c'est relativement normal de demander à voir quelqu'un régulièrement en relation, si je reprends l'exemple que tu as mentionné. Ça, c'est vraiment un indicateur qui met la puce à l'oreille, qui dit « Ah, là, il y a quelque chose du passé qui réactive finalement mon système de survie. » Et c'est pour ça que tu peux avoir cette appréhension, cette boule au ventre, cette angoisse qui t'empêche de dormir. L'idée, en fait, ce n'est pas de pas challenger ton système nerveux. C'est d'avoir un équilibre. Donc, quand tu sens que tu as ta crise d'angoisse, qui arrive parce que tu veux demander quelque chose. L'idée, c'est pas de réduire ce que tu vas demander, mais plutôt d'aller dans, OK, là, je vais réguler mon système nerveux, je vais me préparer. Si tu fais pas la partie du passé, mais au moins tu peux faire cette partie-là. Et après, je vais apprendre à mon système nerveux à vivre cette période d'inconfort. Jusqu'à que cette période d'inconfort, en fait, ça devient mon nouveau normal. Mmh. Ici, c'est une question de balance, c'est-à-dire que d'y aller pas à pas, d'y aller petit à petit, c'est un petit peu, je dirais, les gens qui essayent de prendre les douches froides, ben, au départ, tu commences par 10 secondes, tu encaisses le choc, et puis après, tu fais 15 secondes, 20 secondes, tu augmentes petit à petit. Eh ben, c'est la même chose, en fait, au niveau de la communication, du niveau de difficulté que tu vas communiquer, etc., etc. Ce que tu peux faire, en fait, déjà, c'est quand tu sens que tu veux demander quelque chose, tu sens que l'angoisse arrive, tu peux commencer à aider ton corps à redescendre d'un cran en respirant. Dans ton cas, peut-être ce qui peut aider, c'est la méthode ECAP. La méthode ECAP, c'est une méthode qui est issue du Brain Gym, qui t'aide en fait à accéder à tes deux hémisphères du cerveau, à te reconnecter à ton corps et à créer de la sécurité en toi. D'accord. Donc, cette méthode, je te donnerai le lien pour que tu le vois, mais en gros, déjà, tu te connectes à ton corps, tu bois un verre d'eau, tu fais des mouvements croisés. Les mouvements croisés, en fait, ça aide à connecter les deux hémisphères du cerveau, à les reconnecter, parce que là, t'es plutôt en mode survie. Et à la fin, en fait, tu fais un croisement qui va ressembler un peu comme ça, où tu croises les mains et les jambes, pardon. Et ça t'aide à revenir à ta sécurité.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et il y a l'autre respiration qui est, pour moi, pour tout ce qui est anxiété, la meilleure, c'est la respiration en sifflant, où tu siffles à l'inspire et à l'expire. Je te donnerai aussi le lien pour calmer ça. En étant consciente que tant que tu travailles pas la cause du passé, ça va revenir, mais que tu peux aussi dire, bah, ok, je sais d'où ça vient, je calme mon système nerveux, mon système de survie, et après, je me pose la question de ce que je peux demander. Là, en fait, ce que tu peux te dire, c'est, ok, moi, ma demande à 100%, je voudrais demander ça. Alors, prenons un exemple peut-être concret pour que ça soit dans la relation avec ton ex. Quelle aurait été ta demande à 100%?
Bah, qu'il prenne vraiment du temps pour moi.
Et concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'avais besoin de passer du temps de qualité avec lui et que du coup, pour moi, ça lui demandait à lui de se dire que ce soir-là ou ce jour-là, bah, il n'écoutait pas ses propres besoins à lui, qu'il écoutait tous les jours tout le temps et qu'il les mettait de côté pour se dire, bah, aujourd'hui, je me lève, je passe du temps avec elle, c'est pas je traîne dans le lit, c'est pas je m'occupe de ma fille ou j'en sais rien en fait. C'est ce jour-là, cet instant T-là, je décide que c'est pour elle que je fais les choses et ça sera pour elle que je ferai les choses en fait.
Ok, et concrètement, ça veut dire quoi?
Que je sais pas, c'est difficile hein, même pour moi d'exprimer en fait la chose qui montre son amour. Enfin, pour moi, c'était ça.
Et comment il te montrerait son amour?
En écoutant mes demandes et en écoutant ce que j'exprime ou ce que j'ai pu exprimer par le passé, de choses que j'aime, de choses que j'aime pas. Enfin, et du coup, de se dire, je sais pas, j'aime pas aller à la piscine, c'est pas, il va pas me proposer d'aller à la piscine, sinon là, ça va à l'encontre de ma demande finalement, alors que, je sais pas, moi, j'aime aller me balader, il va me proposer d'aller se balader, du coup, enfin.
Ok. Tu vois que là, en fait, alors, on saute un peu l'exercice que je vais faire, mais je pense que c'est super important et que ça aidera aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent d'être très concrètes. Tu vois, je t'ai posé la question, mais ça veut dire quoi pour toi? Parce que quand j'entends, en fait, ce que tu as dit, j'aurais pu m'imaginer, est-ce qu'il va me préparer le petit déjeuner au lit? Est-ce qu'il va me proposer une activité? Et le fait de, toi, te clarifier, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi, un moment de qualité avec lui? Quelles seraient peut-être les deux, trois possibilités qui me feraient dire que là, waouh, mon chéri, il a été aux petits oignons avec moi, je me sens parfaitement aimée. Si tu réfléchis à ça, ça serait quoi les trois options pour toi?
Les trois options, clairement, c'est les attentions, bah, comme le petit déjeuner au lit, on éteint la télé et on se concentre sur la personne qui est en face de moi.
Et si tu éteins la télé, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un jeu de société? Vous allez boire un café en ville? C'est quoi?
Ça peut être le jeu de société. En fait, moi, c'est vraiment tout ce qui est... À partir du moment où on est connecté, donc on discute ensemble, qu'on vit la chose ensemble. Parce que même, en réalité, ça peut être regarder un film, mais si on prend la décision à deux de le faire, c'est pas la télé, elle est allumée, le film, il est imposé, bah là, c'est pas pareil, en fait. Alors que si on est tous les deux à dire « Ah, ben, ce film, il serait cool, on peut le regarder ensemble », là, on passera un moment de qualité, parce qu'après, on en débat, on en discute, enfin voilà, on a passé le moment ensemble.
Alors, ose choisir, ose vraiment te dire « ça serait quoi l'idéal pour moi ?»
Alors, l'idéal pour moi, ça serait le petit déjeuner au lit le matin et ensuite un temps de massage, tendresse comme ça. Enfin, voilà, ouais. Un petit moment comme ça. Et pour finir, un resto en tête à tête.
Est-ce que tu as l'idée du resto? Lequel?
Sushi.
Tu vois comme c'est beaucoup plus concret?
Ouais.
Plus tu es concret dans ce que tu veux, plus tu facilites, si tu veux, tu prémâches le travail de l'autre. L'autre, c'est pas la responsabilité de comprendre qu'est-ce que tu veux vraiment. On a une boîte noire, on a un crâne qui nous protège. Et l'autre, même avec la meilleure volonté du monde, il ne peut pas comprendre ou faire, si tu veux, cette traduction entre j'ai besoin d'un temps de qualité, j'ai besoin que l'autre me montre son amour, son attention, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi. Donc là, tu vois, en clarifiant vers toi-même, bien sûr que là, il y a un petit peu la légitimité qui revient titiller. Ah, mais est-ce que j'ai le droit de demander tout ça?
Oui.
Donc, tu vois, c'est là, il y a le passé qui revient un peu, mais en ayant ce côté concret, là, maintenant, tu as défini ton 100%, ton maximum. Si maintenant, je te dis, tu demandes ça à ton partenaire, qu'est-ce qui se passe là au niveau du corps? C'est facile, c'est difficile, c'est « oula, Sandy, là, tu m'en demandes trop ».
Avec mon partenaire actuel, ça serait plus facile déjà, parce que la communication est complètement autre. Mais j'avoue que j'aurais la sensation de profiter de lui, du coup.
Ah ah.
Vraiment, là, ouais, de profiter de sa gentillesse et de son amour et de dire qu'il va le faire pour moi. Mais du coup, j'aurais la sensation de profiter.
Ok. Ça, on va y travailler plus tard. Au niveau du corps, si tu demandes ça, comment tu te sens? C'est faisable, pas faisable?
Actuellement, oui, ça serait faisable, vraiment.
Ok. Donc là, tu vois, je te pose cette question pour voir quelle est ta marge de manœuvre en termes de système nerveux? Est-ce que si tu fais cette demande, tu te sens totalement submergé, tu as déjà la boule au ventre rien que d'y penser? À ce moment-là, ça, c'est un indicateur que c'est trop. C'est un pas qui est trop grand. Mm-hmm. Et ce que moi, je recommande toujours, c'est de morceler, de dire, OK, si ce 100%-là, je me sens totalement dépassé, ça serait quoi le premier 5% pour arriver à le demander? Donc là, toi, tu te sens capable de le demander. Mais par contre, la pensée qui est derrière là, c'est de dire, ben, je profite de l'autre. Alors, pour t'aider à voir si... ou à challenger, si tu veux, cette pensée, qui est tout à fait normale parce que il y a un lien vraiment avec le côté de la légitimité. Si je dérange les autres avec mes besoins, eh ben, je profite d'eux, c'est pas bien. Oui. C'est souvent lié les uns, l'un avec l'autre. Toi, quand tu fais une attention pour ton partenaire actuel, est-ce que tu as l'impression qu'il profite de toi?
Non, parce que moi, je le fais sans qu'on me le demande.
OK. Et si il te demandait quelque chose qui lui ferait super plaisir, est-ce que tu aurais l'impression qu'il profite de toi?
Non, parce que moi, je voudrais lui faire plaisir, donc ça me fera plaisir de le faire.
Voilà. Et pourquoi lui, ça serait différent?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est pour moi.
Tu vois, en faisant ça, en essayant de te dire si moi je faisais ça pour mon partenaire, est-ce que je trouverais ça bizarre, normal, profiter, ça t'aide un petit peu à changer de perspective par rapport au fait de profiter. Qu'est-ce que tu pourrais te dire à la place de ben je profite de sa gentillesse?
J'accepte, je mérite.
Ouais.
Sa gentillesse.
Ouais. Comment tu te sens quand tu dis ça?
Alors, c'est tout nouveau pour moi. Hein. Donc, ouais. Je commence tout juste à accepter que je mérite peut-être qu'on soit gentil avec moi. Mais ça fait toujours plaisir, en fait. Enfin, ça fait vraiment du bien. Mm-hmm. C'est limite les papillons. Enfin, pour imaginer la chose, ça serait les papillons dans le ventre, en fait.
Ouais. Et est-ce que tu y crois encore à 100% que je mérite?
Non, pas encore.
OK. Donc, quelque chose qui peut t'aider, c'est quand tu changes de perspective sur l'objectif. Je mérite, c'est un petit peu, ah bah ça y est, j'y suis déjà arrivée, je me sens tout à fait capable de mériter, je me sens totalement légitime de mériter. C'est peut-être, encore une fois, un trop gros pas pour tes pensées. Là, ce qui peut t'aider, c'est de se dire, ah bah j'apprends.
Exactement.
À recevoir. Où j'apprends à me sentir dans le droit de mériter, parce que ça te donne un petit peu moins la pression de totalement y arriver, en fait.
Oui, oui, c'est vrai que oui, ça peut être ouais, le tremplin pour l'instant de se dire que j'apprends à mériter, et finalement, c'est ce que je suis en train de faire, c'est j'apprends, il y a des moments où je n'ai pas l'impression de le mériter, il y a d'autres moments où je me dis, allez, savoure.
Ouais, et quand... Admettons maintenant que tu demandes, comment tu le demanderais?
Du coup, je pense que le plus difficile pour moi, c'est vraiment que ce soit de concrétiser les choses finalement dans ma demande.
Donc bah là, on a le programme concret, on l'a défini tout à l'heure, mais comment, si moi j'étais ton chéri, comment tu me le demanderais concrètement?
Je pense que je tournerais ça sous tu sais, ma journée idéale pour moi, ça serait et toi, ça serait quoi? Et puis du coup, voilà, peut-être tourner plus le côté de je te raconte ma journée idéale et toi tu me racontes la tienne, et puis si un jour tu arrives à me la faire, tant mieux, et si un jour j'arrive à te la faire, tant mieux, et sinon tant pis. Mais bon,
c'est quoi le problème à ça?
C'est que bah il comprendra pas forcément que c'est le besoin que moi j'ai finalement.
Exactement. Quand c'est une demande détournée, en fait, tu augmentes le risque de malentendu. C'est-à-dire que pour toi, tu as lancé la grosse perche grande comme ça en disant « Bon, chérie, en gros, j'ai envie que tu me fasses ça. » Mais la personne qui reçoit ça, elle n'a pas forcément cette compréhension que tu veux vraiment ça. Alors, comment tu pourrais le tourner de manière plus directe?
Alors, peut-être plutôt dire, je sais pas, ce week-end, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble, qu'on passe ce temps-là ensemble, et pourquoi pas que tu me fasses le petit déjeuner au lit, et que, ouais, je pense que ouais, c'est peut-être plus parlant dans ces cas-là de dire concrètement la chose, en fait.
Est-ce qu'il y a quelque chose, une pensée, quelque chose qui vient quand tu dis ça?
que ça serait un gros effort pour moi.
Ah, voilà. Donc, tu vois, là, le 100% devient un petit peu plus difficile quand la demande est directe. Ce qui aide, en fait, et ça, c'est, ça fait partie des bases de la communication non violente, c'est de dire, en fait, quel est le besoin. Dans le sens où, chérie, j'ai vraiment envie d'être chouchoutée. Ce qui me ferait super plaisir, c'est que tu m'organises, par exemple, ma journée idéale. Et tu décris ta journée idéale.
Mmh.
C'est quoi l'avantage d'expliquer, en fait, ton besoin au préalable de la demande?
Moi, je ne sais pas si c'est un avantage de l'expliquer avant, parce que du coup, j'ai la sensation que c'est fait parce que j'ai demandé et pas parce que la personne veut le faire pour moi ou donner son temps pour moi à ce moment-là. Il le fera parce que j'en ai besoin, mais pas parce que lui, il a envie. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui va me frustrer. Je sais que ça me frustre quand je demande quelque chose très clairement, que je le reçois, mais du coup, j'ai pas la sensation de le recevoir pour les bonnes raisons.
Et pourquoi?
Parce que j'aurais tout décrit, donc je me dis que la personne, par amour, elle va le faire, mais pas forcément parce qu'elle le veut. Et du coup, c'est là où moi, je pars du principe que la personne doit le vouloir et ne doit pas. C'est pour ça que quand c'est sous-entendu, je me dis que la personne le veut. Si elle le fait, c'est qu'elle a envie de le faire. Alors que quand c'est concret, c'est vraiment, entre guillemets, je n'ai pas le choix de le faire pour elle.
Est-ce que la personne peut se dire non?
Oui, mais j'ai beaucoup d'arguments. Donc, quand je veux quelque chose, je sais que j'arrive à faire en sorte que ce soit un oui. Mais du coup, après, je culpabilise parce que je me dis, mais en fait, la personne, elle ne le voulait pas. J'ai réussi à faire changer d'avis mon ex sur les enfants quand même, sur le fait de vouloir un enfant ou pas.
Oui, mais là, regarde. Si la personne a envie de te faire une attention et que t'as pas envie de le demander, est-ce que la personne peut quand même le faire?
Oui.
Ok.
Je serai gênée, mais elle peut le faire vraiment.
Ok. Qu'est-ce qui change, en fait? Pourquoi tu demandes des fois quelque chose de concret?
Parce que la personne ne comprend pas les sous-entendus. Moi, à un moment, mes besoins sont quand même là. Donc, si je ne dis pas, j'ai compris avec le temps quand même que oui, c'est important de dire les choses. Donc, j'essaye d'abord de le faire en sous-entendu ou d'attendre un petit peu que la personne fasse. Si la personne, elle fait pas, je vais essayer d'y aller un petit peu plus concrètement, d'expliquer les choses en long, en large et en travers et d'argumenter tout ça. Et par contre, après, du coup, je suis plus forcément contente de l'avoir parce que je l'ai trop expliqué ou j'ai trop fait, je trouve, en fait, finalement.
Et c'est là où tu peux trouver, en fait, ton équilibre. Je dis pas que tu dois tout demander, mais que tu peux te poser la question, ok, est-ce que une partie de mon mode d'emploi, mon partenaire le connaît pas? Et après, si ta réponse est oui, en effet, là, je pense qu'il a pas identifié ce qui me ferait super plaisir. Et la question, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie d'avoir une espèce de frustration ou de ressentiment parce qu'il pense pas au truc que moi j'ai vraiment envie? Ou est-ce que je veux éviter ça et que j'ai vraiment envie de lui donner un petit peu mon mode d'emploi qu'il peut ensuite par lui-même répéter s'il voit que ça te fait plaisir, par choix, par envie de te faire plaisir, etc., etc. Il y a toujours un équilibre, en fait. Il n'y a pas l'obligation de tout demander, il n'y a pas l'obligation de toujours dire le 100%, c'est juste une question d'évaluation. Ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Et ce que tu as dit ensuite, c'est après, quand je dis, j'argumente, je viens de convaincre, ça, c'est aussi une autre tendance qui arrive. C'est-à-dire que quand il y a de l'insinuation et que ça vient pas, il y a souvent deux réactions qui arrivent en termes de communication. C'est soit je me mure dans le silence et j'accumule la frustration, mais ça se voit et ça se ressent dans la relation. Moi, c'était plutôt mon cas avec la castratrice silencieuse. Tu vois, je disais rien, puis d'un seul coup, pouf, j'explosais. Ou alors, on rentre en fait dans « j'essaye de convaincre l'autre » et c'est là où rentre peut-être le côté un peu autoritaire, « j'ai envie de ça, j'insiste, j'insiste ». Tu te reconnais dans quoi, là?
Ah, moi, je convainc à 100%. Hein. Je vais donner tous les arguments qui existent au monde et ça peut durer des jours, hein, ou pendant des jours, je vais marteler dans la tête de la personne que c'est ce que je veux. Et le pire, c'est que même si je me sens pas légitime, je le dis que tu es légitime de le faire, ouais. De demander ça, que c'est tout à fait normal. Donc, en fait, j'arrive à persuader tout le monde que c'est normal ce que je suis en train de demander. Mais finalement, je le suis vraiment pas convaincue que c'est normal ce que je suis en train de demander. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ouais, je vais partir dans le fait d'argumenter.
Ouais. Et à ton avis, est-ce que c'est ça, du coup, qui gâche quand tu le reçois?
Tout à fait. Moi, c'est le fait de devoir, entre guillemets, me battre pour recevoir quelque chose, alors que je pars du principe que quand on aime quelqu'un, on a envie de lui donner quelque chose.
Quelle serait l'alternative à ça?
Je ne sais pas.
Bah, c'est là, en fait, où quand tu rajoutes le besoin, ou pourquoi tu en as besoin, ou comment tu te sens, tu donnes l'opportunité à l'autre de comprendre l'importance que ça a pour toi. Et du coup, en fait, tu ne rentres plus dans un rapport de force en termes de communication. Il faut que tu me donnes ça pour que je sois content. C'est je me bats pour. Et puis au final, bah, quand on se bat, le sentiment quand on le reçoit, c'est qu'on a gagné la bataille, mais qu'on l'a pas reçu de bon cœur.
Exactement.
Alors que si tu dis ce que ça génère en toi en termes d'émotion, le besoin, l'importance que ça a, tu donnes en fait également le mode d'emploi à l'autre sur bah, comment je fonctionne, moi. Quel est le besoin qui est sous-jacent derrière ça? C'est pas juste de me faire le petit-déj en mode autoritaire, mais c'est j'ai envie d'être chouchoutée. J'ai besoin d'avoir ce petit côté romantique qui me fait du bien. J'ai besoin de voir que tu as envie de passer des petits moments intimes, de connecter avec moi.
C'est vrai. C'est pas plus compliqué que ça, finalement.
Mais tu vois que si on reprend ta demande de départ, il y a eu plusieurs choses qui sont imbriquées. C'est un, la partie de ton passé.
Mm-hmm.
Deux, la partie de clarification. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement? Trois, comment je le demande? Et ici, il y avait plusieurs corrections possibles.
Tout à fait. C'est vrai que c'est là où on voit que, autant, une fois qu'on comprend les choses, c'est simple. Après, les mettre en application, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais dans la théorie, les choses paraissent simples au final quand on comprend. Mais en même temps, c'est vrai qu'avec les émotions, tout qui rentre en compte, c'est super compliqué de réussir à avoir une bonne communication finalement quand même.
C'est pour moi comme apprendre une nouvelle langue. Je dis toujours, en fait, aux personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui parle français, c'est comme si tu parles un japonais. Tu dois apprendre que l'autre, quand il dit quelque chose, il n'a pas forcément la même interprétation que toi, le même bagage personnel que toi, que toi aussi, tu as ton propre langage qui est chargé de tes bagages. Et en fait, dans S'ouvrir à l'amour, quand tu commences le programme, je demande aux gens de passer à la pratique parce que c'est justement là où tu te rends compte des trucs qui bloquent. Quand c'est dans le concret, tu vois assez vite, et même si tu fais des demandes à des amis et à la famille, les choses qui bebuguent, et c'est là où, en fait, tu peux petit à petit changer un après l'autre, voir ce qui reste, voir les nouvelles couches qui remontent, et corriger. Mais il faut vraiment le voir comme si, ben, j'apprends une nouvelle langue. J'apprends une nouvelle manière de communiquer. Au départ, c'est pas naturel. Et petit à petit, ça commence à rentrer dans le moule.
Non, mais c'est super intéressant. Mais c'est vrai que, ouais, il faut se donner et se forcer. Je pense, ouais, dans un premier temps, ça doit être, limite, on s'arrête dans notre phrase pour la modifier et la remettre plus au clair une fois qu'on a pris conscience qu'en fait qu'on était peut-être pas très clair à ce moment-là.
Exactement. Moi, ce que je te recommande même, c'est de te poser cette question en amont. C'est pour ça que je t'ai dit, qu'est-ce que tu aurais envie de demander? Donc, toi, en fait, si tu te poses ça en amont, ok, qu'est-ce que moi, là, je ressens ou j'ai besoin de demander? Ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que je voudrais concrètement dans la situation idéale, si mon partenaire le ferait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Quel est le besoin sous-jacent? est-ce que j'arrive, est-ce que je me sens capable de demander le 100%? Là, on fait le check avec le corps. Et tu t'entraînes devant la glace. Tu te parles à toi devant la glace comme si le chéri est en face de toi. Ton cerveau, il ne fait pas la différence si tu parles dans ta glace ou si tu parles avec le chéri. Donc, quand tu parleras avec ton partenaire, bah, tu auras déjà un essai au moins.
C'est vrai.
Et en fait, l'idée, c'est d'écouter et de petit à petit corriger. Ça, c'était le dernier conseil que je voudrais vous partager à vous qui nous écoutez et aussi à toi, parce que c'est comme ça. Et des fois, ça aide d'écrire, des fois, ça aide de parler. C'est de l'entraînement. Quand tu apprends, on a appris les cours d'anglais, au départ, on a écrit la phrase qu'on voulait dire. Hello, how are you? Tu vois, celle-là, on l'a écrit au départ. C'est la même chose.
C'est vrai. Ouais, faut juste se concentrer un petit peu et accepter de remodifier les choses parce que parfois on se trompe. Enfin voilà, c'est pas assez clair et du coup on peut se permettre de remodifier les choses et si on s'entraîne avant, finalement, on a ce recul pour modifier et trouver les bons mots.
Oui. Et il n'y a pas de mal aussi si on sent qu'on a dit quelque chose, c'est sorti de manière pas diplomatique, de dire, bah, écoute, je suis désolée, je l'ai pas bien sorti, je suis en train d'apprendre à communiquer. Donc des fois ça demande plusieurs essais, excuse-moi pour ça. Ça aussi on peut toujours réparer en fait. C'est l'idée, c'est pas d'être dans la perfection et je trouve que c'est aussi un bon signe dans le couple en fait de montrer que OK, on se donne la peine de mieux communiquer, on n'y arrive pas mais on reconnaît en fait quand on a un peu dépassé les bornes et ça permet en fait de donner cet aspect d'apprentissage dans le couple et dans une relation, finalement.
De respect, je trouve aussi, quand on reconnaît un peu ses erreurs, ça montre qu'on respecte la personne qu'on a en face de nous aussi.
Alors, j'espère, Pauline, que cette séance t'a aidé. Je te mettrai les liens qu'on a parlé pour l'aspect du corps. Et bien sûr, pour le travail de fond, c'est ce schéma de place qu'on peut faire dans Sourire à l'amour.
Super, merci beaucoup.
Merci à toi et puis j'ai hâte d'avoir vos retours sur Instagram ou sur par message privé sur comment ce live coaching vous a aidé dans votre communication personnelle. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufmann.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.